Hashtag 2050 le podcast, c'est chaque semaine votre shoot de futur. Aucun effet secondaire, juste un trip vers 2050. Je suis Rebecca Armstrong, votre dealer. Ma cam, imaginez le monde de demain. Avec Stéphanie O'Brienne, nous regardions l'horizon avec comme cap la diversité. Tiens, l'horizon, c'est aussi le nom du titre de Dominique A, qui accompagnait son vœu. Et comme tout est lié en ce vaste monde, je me dis que la diversité de demain se construit sans doute aujourd'hui à l'école. Justement, cette semaine, je reçois Katie Steward. Enfin, c'est elle qui me reçoit. Nous sommes allés ensemble en 2050, à l'école, malgré notre grand âge. Et je vous autorise à glisser discrètement vos deux oreilles ici pour découvrir notre conversation. Mais laissez-moi entre deux parenthèses vous dire que les abonnés à la newsletter du podcast auront droit à un petit bonus. Et oui, c'est comme ça que ça marche, je tente de vous appâter. Le lien vers l'inscription sera dans le descriptif de l'épisode. Sur ce, la parenthèse étant close, entrez et mettez-vous à l'aise. Le futur commence ici et maintenant. Bonjour Katie.
Bonjour.
Merci de m'accueillir chez toi. Je suis ravie que tu participes à l'aventure de ce podcast pour regarder vers 2050.
Tu peux être ravie, c'est le début, t'as pas encore vu.
Voilà, c'est ça. Et ce qui est chouette avec ton profil, c'est que tu as plusieurs vies en une, je dirais, et qu'on va convoquer, je pense, plusieurs de ces vies pour cette conversation, puisque professionnellement, tu es conseillère principale d'éducation.
C'est ça. C'est un métier que j'exerce. Là, c'est la quatrième année que je fais ça à mi-temps, pour laisser un peu de place pour mes autres activités.
Ouais. Et tu es dans un collège,
hein, je suis dans un lycée professionnel.
D'accord.
Okay. Dans le Val d'Oise. Un endroit fort intéressant, on ne s'ennuie jamais, jamais, ouais, jamais.
D'accord. Et puis, tu es également, alors je ne sais pas quel mot tu choisis, autrice.
Je suis autrice.
Autrice, très bien. Donc voilà. Tu es autrice.
C'est le mot que je préfère, il interpelle, il dit beaucoup de choses.
Ouais.
Fait.
Ah, très bien. Et donc, alors, je mettrai dans le descriptif de l'épisode le lien vers ton site internet. Alors. Comment tu décris ton travail d'autrice? Parce que tu es dans la science-fiction, mais pas que.
Oui, alors en fait, j'ai commencé par écrire de la poésie, ce qui n'est pas vraiment la même chose que la science-fiction, par nécessité, voilà, par amour des mots, par nécessité. J'ai toujours lu, j'ai appris à lire pour lire des livres très très vite, et j'ai appris à écrire pour écrire des livres très très vite. Il n'y avait pas de question particulière par rapport à ça. Et puis, j'ai rencontré un milieu qui est le milieu de la science-fiction quand j'étais en Belgique, qui est un milieu hyper accueillant et qui donne aux gens leur chance. Mmh. Voilà. Comme j'avais fait des études scientifiques, j'ai une licence de maths.
D'accord.
Il y a un type, donc Alain Lebussy, qui a estimé que j'avais tout ce qu'il fallait pour écrire de la science-fiction et que c'était pas normal que je n'écrive que de la poésie et qui m'a un peu pressée pour que j'en fasse. Je m'y suis essayée, c'était pas très bon. Mais comme je disais, c'est un milieu accueillant, donc on peut se tromper, on peut réessayer, on peut apprendre aussi, parce que la science-fiction, c'est assez difficile. C'est pas comme en littérature générale où on écrit ce qu'on a envie, puis on s'en fout du monde entier, comme on veut, en fait. Non, en science-fiction, on fait référence à des concepts qui existaient avant nous.
Ouais.
On parle de choses qu'on ne peut pas inventer, en fait. Donc, non seulement il y a la contrainte d'être rigoureux scientifiquement, mais il faut aussi être rigoureux par rapport à ce qui a déjà été fait avant. Donc, on n'arrive pas en réinventant le voyage dans le temps avec des nouveaux outils, alors qu'on prend le risque d'utiliser des choses qui ont déjà été faites par d'autres. Ouais. Non, on utilise le mot qui a déjà été utilisé par quelqu'un d'autre. Donc, il y a quand même des contraintes, en fait.
D'accord, il y a des contraintes, et puis il faut aussi cette capacité à inventer un univers entier, parce que...
Pas forcément.
Ouais.
Pas forcément, moi, c'est pas cette science-fiction-là que je sais faire, je pense. Alors, si je me donne un peu de mal, j'inventerais un monde un peu cohérent. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment notre monde de maintenant. Donc, je vais prendre des petits morceaux, essayer de pas faire trop de conneries, mais... la création d'univers entier avec des créatures, avec une biologie particulière, etc. je crois que je m'ennuierais vite, en fait.
D'accord. Alors justement, tu as ancré en toi, dans ton écriture, le présent et forcément le futur. Donc quand je t'ai parlé de 2050, qu'est-ce qui est d'abord apparu? D'abord le thème que tu voulais aborder, dont on va parler dans quelques instants, ou plutôt la possibilité d'imaginer?
Alors, imaginez, je fais ça tout le temps, en fait, hein, même dans mon travail au quotidien, dans l'éducation, puisque je suis censée aider des jeunes à trouver un autre futur que ce à quoi leur destine leur milieu. Donc, je passe mon temps à imaginer. Pour l'écriture, j'imagine. Pour la chanson, j'imagine. La poésie, j'imagine. Donc ça, c'était pas le souci. Ce qui m'a plu, en fait, 2050, il me semble que si je devais dater la plupart de mes nouvelles de science-fiction, ça serait dans ces années-là.
D'accord.
Je suis toujours dans une espèce d'anticipation légère.
C'est ça, c'est pas si loin, mais suffisamment pour que le champ des possibles soit ouvert.
C'est ça, ça permet de tirer un fil qui est déjà là. En fait, on n'est pas dans une création totale où l'humain n'existe plus, c'est d'autres créatures, etc. C'est encore nous, mais un peu plus vieux, un peu plus tard, un peu ailleurs, un peu, voilà. Donc, forcément, 2050, je me dis, bon... Ok, c'est fait pour moi, quoi.
Alors, tu as choisi le thème de l'école.
Oui, alors j'ai hésité quand même, hein, parce que...
Oui, c'est vrai, on a eu plusieurs
mon
échanges.
Mon thème préféré, en fait, mon thème préféré en 2050, c'est le social, avec un focus particulier sur le travail, puisque j'ai... après mes études de maths, en fait, j'ai fait des études de sciences du travail. Donc, j'ai les outils... pour analyser ce phénomène-là qui permet de parler de tout le quotidien des gens, en fait, une fois qu'on a pris le thème du travail.
Ouais. Et c'est vrai que c'est Anne Adam, avec qui j'ai fait un épisode sur le thème du travail, justement, qui m'a parlé de toi, qui m'a dit « il faut absolument que tu rencontres Katie, vous aurez de belles choses à vous dire
». On a travaillé ensemble, c'est pour ça, on a travaillé sur ce thème-là, sur le thème du travail ensemble. Pour une anthologie
Demain le travail,
c'est ça, le bal des actifs aux éditions La Volte. Et c'était un exercice absolument passionnant. Mon texte est peut-être bien en 2050 d'ailleurs.
Et en plus, entre le thème du travail et ce sujet de prédilection, tu parlais du social, donc l'école finalement, elle fait ce lien entre ces différentes questions.
Oui, en fait, avec ce thème-là, c'est la deuxième fois, en fait, de ma vie que je relis les deux. Parce que j'ai écrit une nouvelle qui s'appelle « Les puces savantes », qui raconte un quotidien d'établissement scolaire dans le futur. C'est dans mon recueil « Connexion interrompue ». Et j'avais l'impression de prendre un risque énorme, parce que normalement, mes vies sont cloisonnées. Et puis là, je crois qu'en vieillissant, on arrête de vouloir protéger ces petits mondes.
Ouais, et puis
on est ce qu'on est, on est multiple.
C'est ça, on est multiple et finalement on est multiple et un à la fois, quoi.
Oui, c'est ça, tout se rejoint et voilà. Donc j'ai choisi le thème de l'école, enfin plus précisément l'école en France, parce que c'est ce que je connais le mieux, en 2050.
Alors justement, allons-y en 2050, dans 32 ans. Nous aurons à peu près le même âge, Katie. On ne révèle pas aux auditeurs l'âge qu'on aura.
Nous serons enfin mûres. Hein.
C'est ça. Nous serons pleinement femmes. Femmes et humaines. Comment tu l'imagines ou l'aperçois, cette école de 2050?
Alors, en fait, on est arrivé à une année un peu particulière parce que c'est le bordel, en fait. C'est le bordel. Il y a une grosse réorganisation parce que l'école a connu des crises énormes. Et donc, on en est, en fait, en France, à essayer de recréer une éducation qui serait une éducation nationale. Mais on est obligé de revenir dans le passé, je peux, enfin, tout le monde est au courant.
Tout le monde est au courant.
De ce qui s'est passé.
Ah ben non, il faut que tu nous dises. Mais justement, c'est ça, dans ces premiers mots-là que tu viens de prononcer, il y a quelque chose qui m'interpelle. Il faut revenir à une éducation nationale. Et puis aussi, est-ce que c'est aussi revenir à une éducation populaire? Parce que quand on regarde, quand on était en 2017, quand on était encore jeunes...
En 2017, en fait, alors je dis c'était le bordel en 2050, c'était déjà le bordel, mais autrement. Mais on avait une façade, en fait, d'unité. On parlait d'une éducation nationale comme si tout était pareil, alors qu'on a des établissements avec des spécificités, des zones où l'école va se passer de manière différente. Et puis, il y a aussi cette espèce d'école communautaire dont on ne parle pas, la communauté des riches, qui s'offre des écoles qui ont d'autres buts, d'autres exigences que ce qui va se passer pour le commun des mortels, mais on continue à dire que c'est une école, c'est une seule école, c'est une seule
l'école
éducation.
L'école avec un grand E, voilà.
C'est ça, vers l'égalité, vers l'épanouissement de chacun, etc. Donc, 2017, c'est vraiment le... C'était une hypocrisie énorme, en fait. Et donc, ce qui s'est passé entre 2017 et 2050, c'est la grosse crise de 2021. Donc, petit rappel, hein, pour ceux qui ne savent pas, 2021, il y a eu une réflexion globale sur l'école qui s'est produite, en fait, à la façon dont on réfléchit sur les dominations en général. On s'est rendu compte que la façon de faire l'école... Alors, la façon officielle, hein, je ne parle pas de ces écoles communautaires dont je parlais tout à l'heure, c'était exercer une domination sur des jeunes. C'était les contraindre à des modèles. C'était, voilà, on a utilisé vraiment la grille de lecture qu'on peut avoir pour le racisme, pour le validisme, etc. Le féminisme, enfin le sexisme plutôt.
Oui, oui, c'est vrai.
Pour analyser ce qui se passait à l'école, et on s'est rendu compte que c'était quand même horrible de mettre sous contrôle tout un tas de jeunes et de leur imposer des choses sans leur accord. Et donc, ce qui aurait pu être une ouverture formidable pour permettre une école différente a permis qu'on puisse avoir des dérogations. Et tout le monde a pu ouvrir son école. Et donc, il y a eu énormément d'écoles différentes. Alors, on est allé encore plus dans le communautarisme, du coup, puisque il y avait des écoles uniquement pour l'art. Il y avait des écoles qui étaient des organismes de formation, enfin, qui dépendaient des entreprises.
Et donc, parce que dans ces années-là, on parlait beaucoup du rôle d'employabilité de l'école, alors que ce n'était pas le point de départ.
Oui, on avait perdu quand même de vue les objectifs, les grands objectifs de l'école éducation nationale, qui étaient... faire société, offrir une communauté, en fait, faire une communauté d'humains. Voilà, favoriser le savoir-vivre, le vivre ensemble. Et on n'y était plus. Donc, les entreprises avaient les moyens d'ouvrir leur école. Donc, elles formaient des gens dociles. Et puis, ceux qui pouvaient se le permettre, en fait, ouvraient des écoles. Et on est arrivé vraiment à une situation où, limite, chacun avait sa propre école, quoi. C'était... Voilà, moi, je suis plutôt bobo, donc je vais dans une école bobo, où il n'y a que des bobos, et on est entre nous, et voilà, ça aurait pu vraiment ouvrir quelque chose, et non,
et en fait,
et
ça,
non on a fait des petites des cloisons petits,
voilà, des
partout,
petites cloisons.
Des petites cellules où chacun était dans son monde, et on ne se rencontrait plus. Donc ça, c'était quand même horrible.
Ouais. Donc 2021, une voilà, décomposition de... Alors, je ne sais pas si c'était à l'époque un mythe de la communauté nationale, de la communauté éducative, avec des majuscules.
C'était, c'était quand même un mythe, mais du coup, on a quand même perdu de vue l'idéal. On y allait franchement. Et là, c'était horrible. Alors, c'est drôle parce que ce qui fait réagir la France, souvent, c'est le regard des autres. Ce n'est pas tellement ce que disent les gens à l'intérieur, c'est le regard des autres. Donc, les classements au CDE, ben voilà, c'était la catastrophe. On était, alors maintenant, on n'est déjà pas très bien placé. Enfin, 2017, on était déjà pas très, très bien classé.
Et là, dégringolade.
Là, c'était la dégringolade. Donc, ils se sont dit, voilà, faut faire quelque chose. Et donc, l'école, en 2050, hein, elle a quand même retenu des choses de cette crise. C'est-à-dire que, dans cette période où il y avait d'écoles partout, toutes sortes d'écoles, et où on ne faisait pas société, il y a eu quand même, en termes de pédagogie, des choses qui ont été apprises. La prise en compte de l'élève. Ça, c'est le truc vraiment qui est resté et qui fait partie, du coup, des nouvelles directives d'éducation nationale, la prise en compte de l'élève. Donc, l'élève a son mot à dire sur ce qu'on lui inculque. L'élève peut s'exprimer. Il y a des classes qui sont des classes de méditation.
Il y avait déjà quelques petites expériences, je me souviens en 2017 j'avais lu ça, de méditation. Alors c'était de toutes petites expériences, je crois que c'était aux États-Unis, où les élèves qui étaient punis, plutôt que de leur faire donner des lignes à copier, on les envoyait en cours de méditation, et apparemment ça avait déjà un impact hyper positif sur le comportement des enfants.
Bien sûr, parce que c'est quand même quelque chose qui permet de se relier à soi, au présent, à ses émotions, et le vivre ensemble, évidemment. Voilà, donc ça marche très très bien. Donc voilà, ça fait partie. Maintenant, c'est obligatoire. Alors, on peut se demander hein, si c'est la bonne manière de rendre les choses obligatoires, mais bon, voilà, il s'agit de réguler. Hein,
oui, et puis quand on parlait du fameux socle commun, si la méditation peut faire partie d'un socle commun pour apprendre aussi à gérer nos relations à nous et aux autres.
C'est ça, c'est l'idée. Voilà. Et puis, donc, des groupes de parole aussi pour les enfants. Alors, le boulot d'enseignant a pas mal changé aussi. Puisque finalement, toute l'expérience là, autour de 2021, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de possibilités d'auto-formation. Donc le prof qui vient et qui explique la grammaire, etc., on s'est rendu compte quand même que les gamins, ils apprenaient beaucoup mieux avec des applications, des logiciels et des choses comme ça. Donc l'enseignant va être plutôt là pour guider.
Ouais.
Donc guider l'élève et l'aider à savoir... où trouver les sources pour pouvoir se former. Et puis, on n'a plus ce rapport hiérarchique, en fait, entre l'adulte, le sachant et l'apprenant, comme on dit. On a vraiment un échange, quoi. Donc, les enseignants sont formés à ça, plutôt. Ils ont une grosse, grosse formation en psychologie. Bien plus que une formation sur une discipline particulière.
Ben oui, parce que finalement, avec toutes les ressources qui sont en ligne, qui sont à disposition partout autour de nous, c'est plus le chemin de la transmission qui importe que ce qui passe dans ce chemin. Finalement.
Alors, ce que continuent de transmettre les enseignants, et qui transmettaient déjà en 2017, mais de façon un peu chaotique, ben c'est le savoir-être, en fait. Parce que enfin, tous ceux qui ont été scolarisés dans ces années-là savent... qu'en fait, le rapport avec l'enseignant, c'était ça qui était important. Un enseignant qui montrait du respect et de la bienveillance envers ses élèves, il transmettait beaucoup plus qu'un enseignant rigide qui était sur sa matière. Donc,
Et souvent, d'ailleurs, quand on entend des parcours de vie de personnalité et qu'ils racontent l'école, c'est loin d'être souvent des personnes qui étaient des premiers de la classe. Mais souvent, il y a toujours ah ben, je me souviens, en CM2, en quatrième, j'avais ce prof, cet enseignant qui m'a d'un coup, par sa bienveillance, par son écoute, ses conseils, m'a ouvert les yeux et tac, le déclic se fait.
C'est ça. Moi, j'ai cette expérience. J'aurais pu être, enfin, j'étais nulle en maths, j'aurais pu rester nulle en maths. Et j'ai eu ce prof qui, par sa façon de faire et sa façon d'être là, a fait que j'ai fini par faire des études de maths. Donc, on peut changer une vie. Et ça, finalement, on l'a toujours su, mais ça n'a jamais été officiel. Ça n'a jamais été dans les missions officielles des enseignants, donc jusque-là, quoi. Et non, 2050, ça fait partie aussi de la formation des enseignants. C'est pas mal. Alors, la façon de faire l'école aussi, physiquement, a changé, puisqu'on n'a plus les salles de classe où on a... 25 élèves pris ensemble parce qu'ils ont le même âge, parce que
ils habitent le même quartier.
Voilà, c'est ça. Coïncidence, voilà. Alors toi, hop, vous êtes une classe et vous êtes parqués ensemble et vous allez devoir avancer au même rythme sur telle matière et tel jour ça va être ça et tel jour ça va être ça et pendant une heure et ensuite on découpe et tout ça. Donc ça n'existe plus du tout. On fait confiance aux gamins, en fait, pour qu'ils ils aillent dans des parcours. Alors, ils sont accompagnés. Il y a toujours un adulte à qui ils vont pouvoir demander conseil. Après ça, une fois que j'ai fait, j'ai fait tout le français, j'ai fait toute la grammaire de ce niveau-là, qu'est-ce que je fais après? Est-ce que je fais le niveau supérieur ou est-ce que je fais une autre langue? Est-ce que, voilà. Donc, il y a toujours des adultes pour conseiller.
Donc, on arrive à faire finalement... l'école de 2050 arrive à faire du sur-mesure, en quelque
sorte.
Alors,
du sur-mesure, mais sans négliger le groupe, en fait. 2017, je pense fin 2017, il y avait eu un classement sur la capacité à travailler ensemble, qui avait fait beaucoup de bruit, puisque sur une trentaine de pays, la France était autour de la 20e position, ce qui n'est pas très très bon. Et des élèves avec des performances supérieures... individuellement étaient incapables de travailler collaborativement. Enfin, ça faisait partie des choses qu'on n'arrivait pas à apprendre.
Ouais.
Donc, là, il y a vraiment... Donc, il y a l'individuel, le parcours individuel, puisqu'on est tous différents, mais il y a quand même des moments où les élèves ont travaillé sur un projet. Et ça, ça se faisait ailleurs aussi, hein, dans les écoles un peu à pédagogie alternative.
Oui, Montessori, etc. C'est un peu la victoire de ces principes-là.
Bien sûr. Et donc, il y a des groupes, en fait, qui vont se constituer à un moment. Et pendant quelques mois, en fait, ils vont travailler sur un gros projet. Donc, ça va être préparer un spectacle, ça va être...
Et dans ces projets, on fera appel aux différentes disciplines. Qui de la littérature, qui de l'histoire, des arts plastiques.
Et ça sera, c'est mieux encore que faire appel. C'est-à-dire que les gamins vont se rendre compte eux-mêmes qu'ils ont besoin de telle ou telle ressource pour pouvoir faire leur projet.
Ouais.
Si je veux organiser... une fête, il faut que je mette en place une billetterie. Si je mette en place une billetterie, il faut que je trouve un système pour pouvoir comptabiliser les personnes, etc. etc. Donc, au fur et à mesure des besoins, en fait, ils vont aller chercher. Voilà. Et il y a toujours, évidemment, des adultes référents, mais c'est leur projet.
Ouais.
Il n'y a pas de jugement sur voilà, leur projet, c'est leur projet.
D'accord, ok. Et alors, ce modèle-là de 2050, né de cette crise début des années 20, c'est toujours compliqué de passer d'un modèle à un autre, parce que y a toujours la question, est-ce qu'on va sacrifier la génération qui, d'un coup, à 11-12 ans, passe d'un modèle à quelque chose de très, très normatif, descendant, à quelque chose de beaucoup plus participatif et ouvert, donc c'est vrai.
Mais c'est là l'intérêt de la crise aussi, parce que ça a tellement remis les choses à plat que finalement, quand on part du chaos, c'est quand même plus facile de reconstruire, et puis c'est pas du construit béton.
Ouais.
Donc on a une transition qui est assez douce. On n'est plus non plus sur un système d'évaluation comme a pu venir l'évaluation au travail avec des critères. Figé, on est vraiment sur des choses un peu souples, c'est-à-dire apprendre à se réaliser. Il y a un lien avec le monde du travail qui est fait, qui n'est pas quelque chose de direct, parce qu'on a admis que l'école ne servait pas à fabriquer des employés.
Ouais. Surtout que le monde du travail a totalement changé, on n'est plus dans une boîte à vie, on est plus sur des, comme tu le disais, des savoir-être et des savoir-faire que sur de la connaissance uniquement technique.
Oui, donc en fait, ces deux changements sont allés de pair. Ça, et puis la notion d'intérieur-extérieur qui régnait en 2017, avec toujours des exclus. Donc ça, il n'y a plus. Dans le vocabulaire, en tout cas, il n'y a plus. Alors évidemment, il y a des gens qui sont nostalgiques. Des gens qui sont nostalgiques. Il existe d'ailleurs une école. Alors, c'est quelque chose qui devrait être dans un musée, mais ben, voilà, c'est l'école d'avant. Là, ils ne sont pas allés chercher très loin leur nom. Hein. L'école d'avant, et qui essaye de garder ça et de prôner. Enfin, il y a toujours comme ça des espèces de.
Des petites poches comme ça.
De résistance et de gens qui aimeraient bien que ça soit comme avant parce que c'était mieux avant. Évidemment, ce sont les gens qui ont les moyens aussi.
Ouais, bah oui, forcément.
Leurs enfants sont dans l'école d'avant. Par contre, ils apprennent tout ce qu'il faut pour pouvoir après aller dans l'entreprise.
Oui,
donc,
c'est ça. Ouais. Est-ce que la géographie de l'école aussi a su évoluer avec son fonctionnement, sa nouvelle façon d'être aux enfants?
Quand tu parles géographie, tu parles sur le territoire
sur
français.
Sur le territoire,
parce que moi, j'étais déjà en train de penser à la configuration d'une école, donc on en parlera aussi.
Oui, ouais. Mais d'abord peut-être cette géographie physique en France. On parlait un peu de communautés comme ça qui, par leur géographie de lieu d'habitation, etc., ont créé une école différente.
Alors ça s'est fait indépendamment de l'école aussi, en fait, parce qu'il y a eu de grosses réflexions sur l'urbanisme en lien. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que 2050 va vers un mieux. Il y a un énorme espoir qui est né parce que tout le monde a pu participer, tout le monde a pu être dans ce grand chantier. Et la manière d'habiter les villes, d'habiter les lieux a changé aussi. En fait, on n'est plus dans un appartement toute l'année, le même. On change, on tourne.
D'accord.
Voilà. Ouais. Il y a des roulements qui seront organisés. Et
Nous devenons tous des nomades.
C'est ça.
Ouais. Ah, c'est assez intéressant. Ouais. Mmh. D'imaginer ça. Et la géographie, alors, de l'école en elle-même, vu que tu voulais qu'on en parle.
Alors oui, les établissements scolaires, alors les anciens établissements, on en a gardé quelques-uns pour se souvenir. Mmh. Et c'est assez hallucinant, en fait, quand on regarde, parce que quand on regarde l'architecture des anciennes prisons, parce que les prisons aussi ont changé. Hein. Mmh. Peut-être qu'il faudra qu'on en parle un jour justice et des prisons en 2050. Ouais. C'est vraiment intéressant ce qui a changé. Donc, on a gardé quelques écoles, quelques prisons, quelques hôpitaux et quelques asiles psychiatriques aussi. Ouais. Passionnant, passionnant ce sujet. Ça se ressemble.
Ouais, oh là là. Mmh.
C'est pareil, c'est les mêmes grilles. Mmh. C'est des endroits clos pour... Alors, dans les asiles psychiatriques, c'est pour 2-3 personnes. Dans les prisons, normalement aussi, mais on peut tasser.
Ouais, voilà.
Dans les établissements scolaires, c'est un peu plus grand, c'est 10 salles de classe, mais c'est toujours le même principe. On enferme des gens pendant une certaine durée dans un endroit précis. Il y a des signaux. Comment ça s'appelait ça à l'époque, en 2017, des sonneries.
Oui, ouais.
Des sonneries à heures régulières, enfin, vous imaginez la chose. Des sonneries à heures régulières qui disent, bon voilà, là ça commence, là ça s'arrête, là ça commence, là ça s'arrête. Et les gens circulaient, en fait, à la même heure.
Ouais.
Donc, ça sonne, et là, on a plein de gamins qui sortent, voilà, donc... avec une envie de liberté, mais qui va être vite réfrénée, parce qu'il faut aller s'enfermer dans un autre endroit. Enfin, c'est... Je sais pas comment ça a pu être comme ça. Maintenant, c'est des espaces ouverts, en fait. C'est beaucoup d'espaces ouverts, avec parfois des petites cellules, si on veut s'isoler, l'enfant qui a besoin de se former en audio va avoir un endroit où il peut se mettre. Mais c'est ouvert, en fait. C'est ouvert, il y a des endroits ouverts, des endroits fermés. Des endroits pour les groupes, des endroits pour les individus. C'est pensé autrement et c'est modulaire. Donc, on peut rajouter des cloisons, enlever, d'accord. Pas voilà, sur quelque chose.
Et puis, puisque tu le disais, on est dans une logique de projet collectif. Ça devient un temps qui est malléable, qui s'étend, se resserre en fonction des besoins du groupe.
Oui, et ils se sont rendus compte qu'en fait, les gens, donc, s'ils suivaient un individu, ils faisaient beaucoup plus de choses. En ayant le temps élastique, qu'en ayant du temps compté comme ça, à l'avance. C'est hallucinant quand même, quand on y pense. Il y avait des emplois du temps,
ouais, c'est vrai,
qui étaient prévus à l'avance pour des groupes de gens qu'on ne connaissait pas.
C'est ça. Pour un an, on ne connaissait pas les gens. On leur disait, tu
on
feras
sait pas
maths
qui c'est,
le jeudi
arrivent,
de 11h
voilà,
à midi.
et ils s'y pliaient, mais... Il y avait ce rôle aussi de l'école qui n'est plus mis en avant en 2050, mais en 2017, c'était tout à fait ça. C'était parquer les jeunes pour protéger les plus vieux, en fait, de cette force et de cette énergie qui n'était pas canalisée.
Les garder dans l'école, c'était protéger l'espace public de dehors.
Ils cassaient pas tout, ils traînaient pas, on savait où ils étaient. Et d'ailleurs, il y avait un contrôle... Je ne sais pas si tu te souviens de ça. On contrôlait qui était là, qui n'était pas là. Et si la personne n'était pas à l'endroit où elle devait être, on appelait les parents, on leur faisait peur. Parce qu'il fallait absolument savoir... En fait, c'est les populations dont on a peur qu'on traite comme ça.
Ben oui, c'est vrai.
Ils font peur, donc on les...
Et les enseignants, ils se sont bien adaptés dans ce cheminement de 30 ans à cette nouvelle façon d'être
Alors, les enseignants, si on dit les enseignants, oui, ils se sont adaptés, mais ce n'est pas les mêmes personnes, en fait. Ce n'est pas du tout le même métier, donc ce n'est pas du tout les mêmes personnes qui vont être attirées par ça.
Tu le disais, la formation déjà n'est plus la même.
Oui, en fait, les gens qui devenaient enseignants parce que j'adore l'anglais, donc je veux étudier l'anglais le plus possible, et puis à un moment, il faut que je mange, donc je vais être prof d'anglais. En fait, ces personnes-là continuaient dans la recherche. Enfin, ils continuent encore dans la recherche.
Parce qu'on a mis beaucoup plus de moyens aussi dans la recherche.
Ah ben, clairement.
Voilà.
Les priorités se sont redessinées.
Ouais.
Et ça fait un bol d'air. Il y a une logique maintenant. Puisque, il y en avait une, mais ce n'était pas forcément une logique tournée vers les gens. Et donc, les personnes qui vont vers l'enseignement, ça va être plus des personnes avec un profil... qu'on retrouvait peut-être plus dans l'animation, dans dans le social, dans la psychologie, dans le médical.
On vient
aussi
en parler d'éducation populaire au tout début.
C'est ça.
Ouais, on revient à ça.
Oui, c'est ça. Les gens qu'on trouve maintenant dans les CMEA, dans la Ligue d'éducation et tout ça, en fait, ces gens qui étaient en 2017 dans des assos, maintenant, ce sont des enseignants.
Ouais,
ils sont dans la transmission, dans l'animation, dans l'organisation. Il n'y a plus cette nécessité d'être expert dans une matière, puisque les intelligences artificielles sont expertes, donc il n'y a pas besoin.
Ouais. Est-ce que les profs de 2050 sont les fonctionnaires, d'ailleurs sont-ils encore fonctionnaires, ça pourrait être une autre question, mais sont-ils les fonctionnaires les mieux payés, ou parmi les mieux payés, parce qu'on a évoqué à plusieurs reprises des classements, et en 2017, la France était loin d'être dans le top...
Je vois que tu as un raisonnement très 2017, hein, sur le paiement, la rémunération, etc., mais tu n'es pas au courant qu'il y a un revenu universel qui a été mis en place.
Hein. En plus, on en avait parlé dans un autre épisode du podcast, la question du revenu universel.
Donc, le revenu universel a été mis en place, et en fait, il y a des primes quand même pour ceux qui font des missions qu'on appelle des missions de fonction publique.
D'accord.
On peut choisir d'être dans des missions de fonction publique ou d'aller dans des entreprises où là, on va être sur des logiques de profit, donc ça existe encore. Hein. On n'est pas quand même dans un monde totalement utopique. Mais les primes, en fait, pour les fonctions publiques, sont vraiment valorisées. C'est d'avoir mis ce revenu universel. Alors, il y a quand même des gens qui disaient, mais c'est horrible, ça va être une dépense énorme.
Et les gens ne vont plus rien faire.
En faisant les calculs, on se rend compte que les budgets n'ont pas explosé du tout. Et que du coup, ça permet de donner des primes vraiment valorisantes pour les métiers qu'on veut valoriser. Pour comparer avec ce que gagnaient les enseignants en 2017, on doit être pas loin du double. Mais voilà, c'est pas, ils y vont pas pour ça. C'est-à-dire que les gens sont choisis, ils choisissent d'y aller, ils sont choisis pour, des valeurs qui sont les leurs. Et par contre, on fait pas une carrière entière. On fait pas une carrière entière parce que le phénomène d'usure, il est connu.
Voilà, c'est ça. La carrière use quand elle est un peu monolithique comme ça.
C'est ça. Et les missions de service public, en fait, c'est 10 ans, 15 ans, pas plus.
Alors, si on revient au présent de 2017, Katie.
C'était bien 2050.
Ouais, justement, ce monde de 2050 que tu proposes, tu as prononcé le mot utopie il y a quelques instants. J'ai l'impression qu'il relève pas mal de ça. Où tu penses vraiment qu'on peut prendre ce chemin-là, de cette prise de conscience, de ce bouleversement, ou est-ce qu'il faut que tu penses que concrètement, dans le réel, il faut arriver à cette crise? Pour qu'on tape au fond de la piscine, pour reconstruire un vivre ensemble cohérent.
Pour avoir observé mes contemporains, je crois qu'il va vraiment falloir cette crise. Pour avoir observé de près aussi le fonctionnement des systèmes d'éducation, il y a tellement, tellement, tellement de choses qui sont sclérosées. On parlait du mammouth à une époque.
Oui, c'est vrai.
Par la peur, en fait. Il y a des enseignants qui ont très, très peur de ce qui va se passer si quelque chose change, et on peut les comprendre parce que les derniers changements n'ont pas été très avantageux en fait en 2017. Ils ont tellement peur qu'ils restent serrés sur des
accrochés à ce qu'ils
connaissent, et puis dans une logique qui est leur peur en fait. Et je pense que dans plein de domaines de la société française, c'est ça qui pêche. Les gens ont tellement peur qu'ils réfléchissent comme des gens qui ont peur. Et quand on a peur, on est dangereux. Quand on a peur, on est mauvais. Quand on a peur, on n'est pas altruiste, on n'est pas bienveillant, on n'est pas souple. Et la crise, elle va arriver.
D'accord. Pour achever cette conversation, j'aime pas ce mot quand je dis achever cette conversation parce que c'est un côté un peu morbide.
On tire bien ici entre les deux sourcils.
Pour conclure cette conversation, Katie, j'aimerais que tu formules un vœu pour 2050.
Oh, un vœu pour 2050. Eh bien, on parlait de méditation. Je pense que c'est une des voies. Sans tomber dans on se contrôle soi-même pour pouvoir éviter de changer le reste, parce que je pense que ça va de pair. Mais ce que je souhaite pour 2050, c'est que chaque humain se regarde, s'écoute, et arrête de se mentir. Arrête d'avoir peur.
Ouais.
Ça aussi, la méditation peut permettre de désagréger un peu les peurs et puis voilà, et qu'après on s'y mette, on mette tous les mains dans le cambouis et qu'on fasse le boulot. Mais d'abord ça, quoi. S'aimer, être gentil avec soi-même et voir comment ça fait du bien.
Ouais, très bien. Eh bien, je souhaite qu'il se réalise dès maintenant.
On peut commencer par nous-mêmes.
Voilà, c'est ça, exactement. Tout à fait. Ben, merci beaucoup, Katie, pour ce regard, cette imagination. Mais oui, on le réel est là. On peut... C'est pas si loin.
Non, c'est pas si loin.
Ouais. Merci.
Merci à toi.
Moi, je ne sais pas méditer. Enfin, je ne sais pas méditer en mode yoga. Je n'ai jamais pratiqué. Par contre, je sais comment mobiliser en un point mon corps, mon esprit, mon cœur, mon âme et mes tripes. Avec la poésie. La poétique est un art qui, oui, me fait ça. Me concentre là où sont les mots, tout entière. Je les lis, je les vois, les entends, les sens, les touche. Et voilà que je suis pleinement à l'essentiel. Bref, ça ressemble à de la méditation, non? Et comme Katie écrit de la poésie aussi, vous trouverez dans le descriptif le lien vers son site internet. Alors, ce shoot de futur, il était comment? Planant? Inspirant? N'hésitez pas dans tous les cas à me le dire, et n'hésitez pas à me le dire en étoile sur iTunes, en partage sur les réseaux sociaux, ou même en m'écrivant, rien qu'à moi, entre toi et moi. À la semaine prochaine pour l'épisode anniversaire de ce podcast avec un épisode enregistré en public. Wouhou ! J'ai hâte. Mais d'ici là, soyons toujours curieux.